Le gong, rythme, rythme nos rencontres. Après ce temps convivial du repas, cette petite marche peut-être pour certains, le rappel. On s'est proposé cet aujourd'hui, toute la journée, de densifier ce corps de prière par la rencontre avec les textes sacrés, mais aussi à travers une expérience. Il s'agit vraiment d'une musculation, muscler un corps de vigilance. Reviens, reviens à ton cœur. Pour l'instant, accueillons ces mots. Nous verrons dans une troisième partie tout à l'heure plus une méthode pratique avec des mots, avec des plus de précision, mais en tout cas rejoindre là ce que nous a rappelé, ce que nous a enseigné cette terre des évangiles. Dieu était là, ce lieu était sacré et je ne le savais pas. La grande parole du patriarche Jacob après son rêve, le songe de l'échelle de Jacob. Dieu était là, le sacré était là, je ne le savais pas. C'est un petit peu ce qui se passe dans notre cœur. Dieu est là. La présence infiniment aimante est là. Je ne le savais pas. Il frappe à la porte du cœur. J'ai tellement du mal à l'entendre. Dieu frappe à la porte de notre cœur. Par des moments de grâce, vous le savez bien. Mais aussi par des symptômes. Par des signes. Les épreuves en font partie. Il frappe à la porte du cœur. À la porte de notre vie. Et vous savez qu'en hébreu, c'est une autre traduction de cette grande question « Où es-tu, Adam ?» que nous avons abordée tout à l'heure. Ayeka. L'autre traduction, c'est « Où que tu sois, Adam, je frapperai à la porte de ton cœur. » Pour te rappeler le pacte de l'origine que tu passes ton temps à oublier. Il frappe parfois douloureusement pour ce travail d'émondage. Frapper à la porte pour que se déconstruise ce qui a à être déconstruit. Pour que ce qui est déjà mort meure vraiment, afin que ce qui t'en appelle de vivre, vive vraiment. L'être là, dans son bassin, dans ses jambes, dans son corps, de tout son poids, dans son hara, cette force d'enracinement, d'incarnation. Être là présent au niveau de la plante des pieds, laisser la plante s'enraciner, comme une porte qui s'ouvre dans la plante des pieds, vivifiant la relation avec le corps de la terre-mère, ce corps vivant. Retrouver la force de gravité, cette force d'attraction de la terre sur la matière que nous sommes, qui nous enracine, qui nous fait atterrir, être là présent dans ses chevilles, dans ses pieds, dans ce mouvement d'enracinement vers le corps de la terre-mère, qui nous rappelle que nous ne sommes pas qu'une matière pesante, mais ouverte à la lumière. Et en partant de la terre, laisser vivre cet élan vers la lumière. En partant de la plante des pieds et en remontant à droite et à gauche, le long des chevilles, des tibias péronés, des genoux, des cuisses, du bassin, l'articulation du bassin à droite et à gauche. Être là dans son bassin. Nous sommes là où est notre attention. Nous sommes là où est notre attention. Et en remontant le long de la colonne vertébrale, éclairer, visiter ses organes abdominaux. D'abord, ses organes pelviens, puis le ventre, en remontant vers le diaphragme. Laisser venir les couleurs, les images, les sensations ou les absences de sensations. Traverser la coupole diaphragmatique en suivant cet élan vers la lumière le long de la colonne vertébrale. Rejoindre l'espace thoracique, pulmonaire, cardiaque. Être là présent à son battement du cœur. Écouter son cœur battre. Tous ces champs cellulaires qui s'éveillent sous le regard de la vigilance. La zone du thymus est remontée vers la gorge. Vers la nuque, plus en arrière. Cet élan vers la lumière continue à se déployer dans notre espace cérébral, au niveau du visage, arrière du crâne. Laissez se détendre nos hémisphères cérébraux dans cette plasticité jusqu'au sommet du crâne. Ces cet élan qui vient fleurir au sommet du crâne, dans l'ouvert, laissons se déployer les sourires intérieurs dans les différents registres de notre corps. Sourire intérieur, ce sourire cellulaire. Nous sommes une église de chair. La première église commence là. Les fondations sont en terre. Cette église, ce temple ouvert au ciel, cette population cellulaire, tous ces organes, ces pays, ces océans d'énergie, ces rivières, ces montagnes, ces vallées, ces peuples, de ces pays du foie, de la rate, des reins, des muscles, du cerveau, du cœur, du sang. Nous avons beaucoup entendu l'évangélisation vers l'extérieur. Allez évangéliser toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avons-nous assez entendu cette évangélisation vers l'intérieur? Apportez la bonne nouvelle d'une vie qui a vaincu la mort dans nos cellules sanguines, dans nos cellules cardiaques, dans tous ces contrées intérieures. Je vous propose dans cette posture de chanter ce roi céleste tous ensemble comme ce matin.
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure.
C'est à Saint Paul que nous devons de parler de l'Église comme ce grand corps, vous le savez, formé de tout un ensemble de membres, à entendre, bien sûr, à travers ces différentes communautés ou ces différents registres de charisme. Mais je crois que c'est aussi à entendre à quel point ce corps, cette Église, d'abord, c'est d'abord nous, je crois, dans cette dimension globale, et comment chaque partie du corps, donc tous ces grands organes qui nous fondent, qui nous habitent, comment nous aurions à inscrire dans ce bouleversant mouvement de l'incarnation, d'une parole à faire résonner dans tous les confins de l'univers intérieur, dans nos paroles. C'est pour ça qu'on rappellera à quel point notre prénom, notre nom commun, qui est le nom d'Adam, Aleph d'Alet Mem, en hébreu, vous rappelez, littéralement, c'est la mise au monde, la révélation de Aleph dans Dam, dans le sang. Et comment, Annick Dussouzenay nous a beaucoup accompagnés autour de cette compréhension du symbolisme du corps, on ne va pas y revenir, c'est tout sa très belle contribution aujourd'hui à notre inscription de ce chemin d'incarnation, comment justement cette présence du Verbe, cette présence du Christ nous rejoint là, dans les lieux les plus intimes de notre humanité, et comment notre processus de déification, je crois qu'il est importable. Comment le... C'est mieux ? Excusez-moi, là, je... Comment le... Je dirais, on a parfois oublié un peu dans nos pratiques ecclésiales, il y a bien sûr les dimensions extérieures, les dimensions liturgiques, ô combien importantes, mais qui sont vraiment aussi vraiment en lien avec cette grande célébration du liturgie, célébration, et que finalement... quand on parle de déification de l'homme, c'est-à-dire cette spiritualisation, il s'agit vraiment d'aller rejoindre la matière. Et vous vous rappelez que, je crois, la grande différence pour nous, chrétiens, peut-être par rapport à d'autres formes religieuses qui ont toutes leurs valeurs, mais la grande force du christianisme, c'est justement l'incarnation. Et que la matière n'est pas illusion, n'est pas un lieu, justement, de... qu'on aurait à éviter, qu'on aurait... La matière est le lieu de la manifestation du divin. Et finalement, il y a des noces qui sont à vivre entre la matière et la lumière. Et là, le christianisme, c'est la tradition, à mon avis, qui porte la matière à son plus haut degré d'accomplissement. C'est vraiment l'apologie de la matière glorifiée. Je crois qu'on retrouve de manière unique dans le christianisme, il me semble, qu'on n'a pas forcément, dans d'autres approches traditionnelles, de manière aussi cruciale que le christianisme. C'est vraiment la matière qui retrouve ses lettres d'or d'une matière déifiée, d'une alliance entre matière et lumière. Et c'est vraiment le propre, justement, de l'incarnation, de ce mystère qu'ont essayé de mettre en mots les anciens, et Dieu, et l'homme. Vrai Dieu, vrai homme. C'est vraiment, je crois, cette matière glorieuse, c'est le sommet, je dirais, du projet de Dieu, pour nous en tout cas, au cœur du monde. C'est vraiment, je crois, et donc on est bien dans un chemin d'incarnation qui malheureusement, je crois vraiment, a été parfois oublié ou édulcoré dans certaines approches du christianisme, certaines approches christologiques. On oublie vraiment à quel point vraiment la matière, le verbe se fait chair, il se fait chair, et chaque cellule, chaque particule de notre matière aurait à libérer la parole, à libérer le logos, je dirais, qui fonde cette matière. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler dans nos pratiques aussi, qui doivent aller jusque-là, dans ces contextes, aux confins de notre microcosmos. Donc je propose aujourd'hui, après avoir repositionné le terreau évangélique et puis le terreau traditionnel, ce matin, l'enracinement évangélique et les fondements évangéliques de toute matière, de tout groupe de prière, en appel de formation. Aujourd'hui, je propose dans une deuxième conférence, une deuxième approche, de vous signifier en fait la beauté d'une généalogie spirituelle. Qui sont nos pères, qui sont nos mères? Et comment ce qui a été semé, ensemencé par la présence du Christ comme matière prière, qui est venu, nous l'avons rappelé tout à l'heure, s'inscrire à travers des postures, celle de la Vierge Marie, celle de Jean-Baptiste, celle de Marie-Madeleine, celle de tous ses apôtres, autour de Jean aussi l'évangéliste, comment cette grande tradition évangélique va s'inscrire maintenant dans la temporalité de l'histoire? Et là, donc, on va rejoindre, alors j'ai volontairement mis un peu plus haut, à la demande de certains, pour qu'on voit mieux à travers les têtes, les images qui étaient proposées. Alors du coup, il est un peu décalé, on va le remettre un peu au milieu. Donc, vous le savez, la suite de la terre évangélique, dont on a rappelé certains fondements ce matin, certaines approches, on n'a fait que survoler, c'est bien sûr cet événement bouleversant, qui est l'éruption de l'Esprit-Saint, ce moment de la Pentecôte. Ce moment, rappelez-vous, où le peuple juif, Israël, célébrait le don de la loi à Moïse, 50 jours après la sortie de Mitzraïm, la terre d'Égypte. Donc comment, à ce moment-là, eh bien, à travers le don de l'Esprit-Saint, sous forme de flammes qu'on eût dites de feu, ce vent brûlant, ce vent violent, va venir faire irruption dans la chambre haute, et où là, eh bien, ce groupe d'hommes et de femmes reliés de manière psychologique, en même temps autour du maître, eh bien, vont devenir église. À travers, je dirais, l'irruption de l'Esprit-Saint qui va venir les embraser et faire de ces pécheurs aux mains calleuses et aux paroles parfois difficiles, balbutiantes, eh bien, ces pêcheurs d'hommes, désormais, où les filets vont vraiment se propager. Donc l'Église naît à ce moment-là, diront certains, cette Église qui va être désormais le lieu de la corporéité, où l'être divin, dans la grâce de l'Esprit-Saint, va venir signifier son œuvre pour nous apprendre désormais l'art de l'alliance trinitaire. Et l'Église est vraiment le lieu de l'apprentissage de la Trinité. On n'est plus uniquement une humanité psychique dans une forme de dualité, dans un face-à-face. On est là pour apprendre l'art de la présence du grand troisième au milieu de nous. C'est vraiment l'art trinitaire. Donc, la Pentecôte est vraiment le moment très particulier, donc, où les apôtres vont être saisis, ils vont vraiment être transformés, métamorphosés sous la grâce de l'Esprit-Saint. Et vous le savez, de ce jaillissement pentecostal vont venir, sous forme d'un feu d'artifice, de différents mots, une prédication bouleversante, l'émergence d'une parole qui naît, rappelez-vous, des verbiages de cette différenciation linguistique, et en même temps, traversant ces différences d'idiomes, chaque nation est rejointe pour vénérer, pour glorifier l'être de Dieu, le Seigneur. Donc cette parole une de l'origine, qui est retrouvée, cette parole du cœur intelligent, à la fois de ce cœur qui réchauffe et qui éclaire, cette langue pentecostale. Donc là, il y a vraiment toute la conversion, les premières communautés chrétiennes, la fraternité qui est là ô combien présente, c'est l'un des mots les plus utilisés dans les Actes des Apôtres. Bien sûr, cette joie pentecostale, baptismale, la nouveauté, la dimension charismatique, bref, ce foisonnement qu'on retrouve là avec la Pentecôte, également autour de la célébration. Et là, on va voir aussi, Donc je dis simplement quelques mots de cette dimension des fondements apostoliques, après avoir parlé un peu des fondements évangéliques ce matin. Vous le savez, la première communauté chrétienne, on va les appeler les disciples du nom, ils vont être ceux qui vont invoquer le nom de Dieu. Et pour qui le nom de Jésus, car il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés, cette grande parole d'un des grands discours de Pierre, les premiers mois après la naissance de l'Église. L'invocation du nom, mais en vous rappelant que d'un point de vue sémitique, invoquer le nom, c'est faire venir la présence. C'est vraiment beaucoup plus qu'une appellation extérieure. C'est vraiment faire venir et communier à la présence qui était là tellement prégnante dans la grâce de l'Esprit. Donc, l'invocation du nom, il faudrait vraiment retrouver là certaines épîtres, en même temps, ce grand climat de ce grand évangile de l'Église qu'on appelle les Actes des Apôtres, et puis ces premiers grands saints, comme Ignace d'Antioche, ces premiers, et bien sûr l'évangile johannique, pour vraiment signifier à quel point cette prière incandescente des temps apostoliques va vraiment fonder l'Église aussi. L'invocation du nom, les célébrations. Nous sommes vraiment dans un temps d'émerveillement et où la prière, est pratiquement spontanée. De ces communautés chrétiennes jaillit une ferveur, des brûlants dans la grâce de l'Esprit-Saint, en tout cas dans un contexte aussi, en tout cas assez rapidement, d'incompréhension, voire de persécution de la part de la synagogue, puis après, bien sûr, des Romains. Mais il y a vraiment là donc les fondements apostoliques. Et puis, vous le savez aussi, ce que je voulais simplement partager dans ce déroulé que nous abordons aujourd'hui sur le thème de cette prière qui va s'échouer, qui va venir aujourd'hui fleurir, nous l'espérons, à Liège, mais de voir que derrière cette communauté qui pourrait fleurir à Liège, il y a aussi toute cette histoire qu'on est en train de rappeler. C'est pour ça qu'on passe ce temps à redéfinir un petit peu, qu'est-ce qui va se passer lorsque quelque chose va être créé dans tous ces lieux de prière. Et puis, donc vous vous rappelez, d'un point de vue artistique aussi, ce qu'on a repéré, en particulier dans les catacombes, là c'est une image d'un lieu donc à Rome, cette très belle parole de Paul Evdokimov qui dira la chose suivante: dans les catacombes, l'image la plus fréquente est une figure de femme en prière, l'orante. Elle représente la seule attitude vraie de l'âme humaine. Il ne suffit pas d'avoir la prière, il faut devenir prière. Être prière, prière incarnée. Ça, c'est vraiment, c'est une parole. Et donc, les catacombes vont signifier cette posture donc d'une femme, donc à travers cette femme anonyme, l'effigie de cette âme humanité, qu'on soit homme ou femme, hein, qui vient vraiment voilà, signifier cette ouverture, hein, et qui montre bien, si vous le voulez, hein, que à travers cette humanité souvent pesante, hein, cette humanité debout, il y a plus qu'une humanité debout, c'est une humanité capable de lever les bras et de célébrer, hein, de louer le Seigneur. Hein, cette célébration vraiment que nous sommes tous invités à signifier, et je vous rappelle que le christianisme, beaucoup plus qu'une philosophie, c'est une philokalie. On est là pour célébrer le Seigneur. Tous les enseignements, tous les moments, je dirais, de lecture, de lectio divina, sont des moments de contemplation, de méditation, qui, au bout du compte, sont au service de ce but qui est la célébration, hein, qui est d'honorer, de célébrer la beauté de l'être éternel. Hein, cette dimension philokalique, hein, philokalia, on va y arriver tout de suite, enfin dans quelques diapositives, le mot grec, l'amour de la beauté. Donc ceci étant rappelé, frères et sœurs, dans cette dimension plus apostolique, nous continuons à tourner les pages de l'histoire. Donc après le contexte des persécutions, le contexte donc arrive, vous le savez, ce milieu du IVe siècle, où donc, à travers des enjeux politiques, là, je dirais l'édit de Milan, 313, qui va officialiser, ou en tout cas apaiser, ce côté un peu persécution des chrétiens, ça va quand même durer un peu plus en Orient qu'en Occident. Et puis, vous le savez, au moment où arrive l'autorisation pour l'Église de célébrer, je dirais, ces rituels, arrive tout de suite un danger qui menace toute forme de groupe, qui est l'installation, la crispation, l'institutionnalisation. Et peut-être que c'est à ce moment-là où, dans la tradition de l'histoire, enfin dans l'histoire, le christianisme est peut-être le plus en danger à un moment donné. D'un point de vue, je dirais, de l'esprit, hein, de l'esprit pentecostal. Ce moment où on va chercher, où on va être plus en compromission, peut-être aussi avec le monde, où on va chercher à... Et où là, l'Église va sans doute perdre, elle peut perdre à ce moment-là, cette dimension d'interrogation et de témoignage du royaume au cœur du monde. Et où l'esprit du monde va peut-être pourvoir à ce moment-là parasiter et souvent édulcorer le message de l'origine. Cette folie de la croix, cette folie de l'amour du Seigneur. Il y a quelque chose qui peut s'édulcorer, qui peut s'institutionnaliser, se normaliser, se refroidir. Eh bien là, on va entrer maintenant dans un mouvement qui va naître du sein de l'Église, nourri par des hommes et des femmes dont ça va être l'appel intérieur, qui vont quitter désormais les villes où le christianisme s'est implanté et se prolifère et en même temps du coup s'installe peut-être un petit peu trop, et où ils vont quitter l'esprit du monde pour rejoindre ces grands espaces du désert. Et là, on est à la naissance de ce qui va être le mouvement monastique, du grand mouvement monastique. Alors, ça commence avec saint Paul de Thèbes, saint Antoine, mettons, fin 3e, 280. Saint Antoine est né en 260. Donc, 280, 290, on est à la fin du 3e siècle. Donc, c'est vraiment les premiers siècles. L'appel du désert. Là où des êtres, ça n'est plus suffisant d'être chrétien au cœur de la ville, où on peut à ce moment-là être repris en main par l'esprit du monde. Comment là, pour ces êtres, brûlant, hein, il y a cet appel du désert pour une prière de feu. Et donc, passer un petit moment cet après-midi dans cette deuxième partie pour justement définir un petit peu la terre monastique et ses différents visages qui vont donc être à l'origine d'une tradition, d'une transmission spirituelle qui vont aller jusqu'à nos jours dans nos communautés paroissiales, monastiques et puis occidentales et orientales. Donc peut-être quelques mots autour du désert. Hein, eremus, en latin, en grec, eremos, pustata, en slavon, hein, pustata, pustoi, c'est le vide. Le désert, c'est le vide. L'appel à la vacuité. Et vous le savez, en hébreu, ce mot est très riche, on en parlait avec Stéphane à midi, middavar, le désert en hébreu. Middavar. Et ce mot est très fort, parce qu'en vérité, il est formé, hein, toujours avec cette logique interprétative des lettres hébraïques. Alors, ce sont des consonnes. Là, je n'ai pas forcément le logiciel pour les voyelliser, hein, donc sur l'ordinateur. Mais rappelez-vous comment, pour ceux qui sont un peu hébraïsants, mit, mem, la matrice, davar. Eh bien, davar, c'est la parole. C'est ce qui va donner le mot logos en grec. Davar, c'est l'information créatrice, la parole qui nous fonde. Le désert en hébreu, mit davar, c'est la matrice où nous nous mettons en capacité d'entendre la parole créatrice. Ce sont des conditions particulières dans lesquelles on va se mettre, de solitude, de silence, pour quitter l'espace des élucubrations un petit peu artificielles ou superficielles de nos pensées extérieures ou du monde, pour retrouver dans ce silence davar, la parole fondatrice, la parole créatrice. Tout commence au désert de soi, dans ce lieu silencieux. Donc nous ne faisons que colorer ou mettre en mots ce que nous avons déjà entendu dans ces fondements évangéliques ce matin. Mais le lieu du désert, désert de sable, désert de forêt, désert... Et puis chacun d'entre nous, dans nos maladies, là où nous sommes régulièrement ramenés au désert, à travers des épreuves, à travers des manques, à travers des deuils, à travers des maladies, à travers revenir au désert de soi, comme si l'épreuve du désert était là pour nous fiancer encore plus au Seigneur, pour que cette union de notre âme avec le principe, la parole créatrice, s'enracine toujours plus profondément. Et nous le savons bien, nous sommes régulièrement conduits au désert, désert du désir, désert de l'amour, hein, ces nuits dont parleront les grands mystiques de la tradition occidentale, hein, la tradition carmélitaine, Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, et puis ces les nuits, les déserts, hein, ces manques, il n'y a plus rien à voir, plus rien à... Voilà, c'est pour faire de la place, pour, dans ce grand désencombrement, ce grand travail d'émondage, donner toujours plus de fruits, hein, le désert. Écouter la parole plus profondément. Eh bien, symboliquement, hein, c'est dans ce terreau-là, donc vous le savez, que ces hommes, que ces femmes qui vont quitter les villes, eh bien, vont rejoindre des déserts. Donc ça va le commencer, vous le savez, beaucoup en Haute-Égypte, près d'Alexandrie. Donc, certains subodorent que l'évangéliste Jean aurait transmis à Marc, Marc étant le grand apôtre qui va aller évangéliser Alexandrie. Et donc de Marc, Alexandrie, donc ça va venir rejoindre progressivement cette terre particulière où tout va commencer d'un point de vue monastique, même s'il y a aussi en Palestine, mais en Haute-Égypte. Donc ces hommes, ces femmes, dans ce territoire copte aujourd'hui, je pourrais dire, tout a commencé. Et vous savez qu'on va au désert pour fuir, fuguer, fuit, mais ce n'est pas une fuite en creux, c'est une fuite vers quelqu'un. Fuir l'esprit du monde, ou en tout cas quitter cet appel à quitter l'esprit du monde, à le quitter pour s'approcher et pour entrer dans cette dimension intérieure où on est aimanté par un principe, et le lieu du désert est de quitter, je dirais, ce qui peut nous empêcher de communier à cette présence aimante qui nous fonde. Et toute notre vie est configurée à cette présence aimante. Ce Seigneur des Seigneurs qui nous aimante et qui nous entraîne vraiment vers parfois pour certains de manière très extérieure, dans des lieux de plus en plus retirés, qui peuvent difficilement parler aujourd'hui à certains. Pour d'autres, ça reste au cœur des villes. Mais c'est vraiment ce lieu donc intérieur pour communier, pour retrouver ce lien avec l'amour. Mais vous le savez que cette pédagogie de l'amour, nous invitant à être creusés et travaillés, va aussi nous faire apparaître les lieux d'inaccomplissement, ces lieux pris en main par des forces de mort, et que, associés au désert, il y a ce grand thème du combat spirituel. Nous sommes habités de manière ambiguë par des forces de mort, des forces qui nous déchirent, qui nous divisent, et que avant la lumière, ou en même temps que la lumière, ce qui apparaît aussi, c'est la mise en lumière, justement, de toutes ces forces de mort, ces forces qu'on appelle diabolos, qui nous déchirent, hein, le diabolique, hein, donc ces forces qui nous néantissent, ces forces qui nous font désespérer. Hein. Et à côté de ces forces-là, eh bien, il y a ces forces résurrectionnelles, hein, de l'amour. Donc ce combat spirituel, là, c'est un combat avec son ombre. Comment rencontrer son ombre? Comment rencontrer le mal, hein, qui nous fait mal, ce mal du monde, hein, comment le rencontrer, comment l'intégrer, comment le combattre, hein, c'est toutes ces stratégies, je dirais, hein, de la rencontre avec le mal, et du coup, ou avec ce qui nous fait mal, ce qui nous déchire, et dans cette vacuité, dans ce vide, il n'y a plus la place pour se la jouer, comme on pourrait dire un peu familièrement. On est dans une exigence, une radicalité qui est là, rappelé par Jean-Baptiste ce matin. Et en tout cas, c'est au service d'un espace de connaissance, d'un dévoilement, de rencontre avec l'être qui est, non plus par oui-dire, comme le rappellera Job à la fin du récit, « Avant, je te voyais par oui-dire, maintenant, je te vois tel que tu es. » Tout notre chemin spirituel est du coup un chemin de dévoilement qui va nous inviter à de plus en plus entrer dans la connaissance de l'être qui est ce qui est. Cette connaissance par amour, mais également rentrer dans la connaissance du frère, de la sœur et de soi-même. C'est vraiment ces quatre verbes, il me semble, fuit vers quelqu'un, aime, combat, connaît, hein, qui est vraiment ce tétralogue, je dirais, ou ces quatre paroles qui vont vraiment fonder la vie de ces hommes et ces femmes, en vérité de chacun d'entre nous. On va le voir maintenant. Donc, voilà, hein, c'est intégré à travers ces deux grandes figures que sont saint Antoine et saint Pacôme. Hein, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Viens. Viens et suis-moi. Cette parole, hein, qu'on peut être amené à entendre dans nos vies. Comment quitter toujours plus ce qui est connu, hein, dans nos relations, pour de plus en plus suivre le Seigneur. De plus en plus être disciple du Seigneur. Et ce n'est pas forcément quitter extérieurement, tout abandonner. C'est quitter une posture d'installation, hein, pour de plus en plus lâcher. Et faire le grand saut à travers des décisions, à travers des choix, à travers des engagements de plus en plus profonds, hein, prendre le risque, hein, de cet engagement. Donc là, eh bien, on est en train de définir, comme je vous le rappelais, ce qu'on va définir comme ce mouvement, ce que l'Église primitive définit comme la dimension du monachisme. Et c'est intéressant, finalement, un petit moment, de s'arrêter quelques instants sur le mot qui fonde le monachisme. Et vous allez voir à quel point ça nous rejoint tous, mes amis. Le mot « monos » en grec signifie, sensu stricto, être seul, unique. Donc ça implique effectivement de quitter une posture de groupe, ou en tout cas de consentir à entrer dans une vie de solitaire et d'être isolé. Donc de vraiment choisir des lieux retirés, d'être vraiment dans des vies aussi... pourquoi pas d'ermite, ou en tout cas de créer des communautés, monos, pros, monon, le seul tourné vers l'unique, monon. Vraiment, le moine ou la moniale est vraiment l'être qui, par définition, dédie sa vie, dédicace sa vie, tournée vers l'unique, vers le monon. Mais, ce qui est intéressant aussi en grec, c'est d'ailleurs le mot monos, il y a le mot monakos, monachisme, qui veut dire être seul, mais aussi dans le sens d'être unique, d'être simplifié. Et c'est là où on entend qu'en vérité, et ça, quelqu'un comme Raymond Panikkar l'a beaucoup développé pour ceux qui s'intéressent dans un livre qui s'appelle « L'éloge du simple ». Et il rappellera, à travers un colloque qu'il y avait eu aux États-Unis il y a quelques années maintenant, eh bien, il rappellera que l'état monacal est une dimension constitutive de chaque être humain. Cette dimension affamée de lumière, affamée d'absolu, nous constitue tous, frères et sœurs. C'est pour ça que quand on parle des moines et des moniales, bon, qui vont s'engager, effectivement, dans un engagement, dans un moment donné, à travers des habits, à travers des vœux, à travers une posture hors du monde, est importante. Mais pour d'autres, être moine, c'est être moine à deux. C'est-à-dire être moine à trois, en vérité, dans le couple, dans la famille. C'est-à-dire comment retrouver, comment retoucher en nous cet état d'unification, de simplification, de monogénéisation. Pour certains, ça passe d'un point de vue vocationnel à travers un appel à tout quitter, et donc à quitter le lien, le registre, je dirais, familial. Mais pour d'autres, ça se situe au niveau de la famille. Cet état monacal n'appartient pas à des êtres un peu particuliers ou élus. C'est une dimension constitutive. Nous ne serons vraiment pleinement humains que si nous écoutons et nous nourrissons cette dimension monacale. C'est-à-dire cet appel à la retraite, cet appel à l'unification, cet appel qui nous invite donc régulièrement, qu'on soit en famille, en couple ou seul, à faire régulièrement retraite. C'est une dimension d'un point de vue anthropologique qui nous constitue tous. Et nous ne serons pas heureux, nous ne serons pas bien heureux, unifiés, si nous laissons en jachère cet espace de nous-mêmes. Affamés de silence, affamés de conscience, hein, affamés de lumière. Hein. Donc c'était vraiment le rappel pour nous que la vie de ces moines, aussi extrême soit-elle, on va le voir maintenant, en tout cas à travers certains visages, en vérité, ils ne sont que les effigies extérieures de quelque chose que nous avons à faire croître à l'intérieur. Toute notre vie, c'est comment nous tourner vers la source. Et on peut être en lien avec d'autres, mais de privilégier vraiment cette unification, hein, de notre humanité. Hein. Donc, bon, s'il y a des questions, on pourra les aborder plutôt en fin de partage. Et donc, mes amis, hein, certains donc, vont définir finalement cette icône du moine, du monakos, hein, de cet état monacal, on pourrait dire, comme étant une vocation de laïc, aimant le silence et la solitude, donc invité régulièrement à ces moments de retrait, ou au cœur d'une vie, au cœur du monde, hein, une vie plus silencieuse, n'ayant pas peur de la solitude, au contraire, vivant la solitude comme un lieu de grande fécondité, dont l'exercice, dont la fonction va être de veiller. C'est la grande fraternité des veilleurs, des pères vigilants ou des mères vigilantes, hein, de la veille, de cet état de veille, qui vont donc prendre en main un travail bien ordonné sur soi-même, un travail d'exercice à l'issue d'un combat avec ses propres forces ombragées ou ténébreuses de notre humanité, hein, pour les épouser, pour les rencontrer. Ce qui va nous conduire à un état d'apathéia, nous diront les anciens, c'est-à-dire d'apathologie. Hein, et ce n'est pas un état d'apathie, c'est-à-dire de prostration ou de. Apathéia, littéralement en grec, c'est sans pathos, sans passion, sans pathologie. Délivré des passions de l'âme, délivré de ces grands dragons, hein, qui habitent nos cœurs de toute puissance, de désespoir, de colère, de tristesse insondable, sans nom, d'envie suicidaire, de désespoir. On sait chacun et chacune comment on peut être habité de ces lieux-là, comment ils peuvent nous déchirer, nous diaboliser, comment pour certains ce sont des combats, hein, des combats parfois homériques dans la vie quotidienne, dans le secret du cœur. Eh bien, cet état d'apathéia, c'est l'état de santé retrouvée, de liberté. De liberté. Et encore une fois, le message du Christ, hein, c'est pas autour du bien ou du mal, c'est être libre, être libéré de toutes ces forces qui nous possèdent, hein, qui nous abîment, qui nous déchirent, d'un point de vue personnel, familial, mais aussi collectif. La vérité nous rendra libre. Je suis nous rendra libre. Cette liberté vis-à-vis de tous ces mouvements qui nous habitent. Donc vraiment, hein, cette icône du moine monial ou de l'état monacal, bien sûr, est vécue de manière pleine. C'est le sens du ministère au cœur de l'Église, de ces hommes, de ces femmes qui se mettent de côté, en tout cas qui sont mis de côté par l'Esprit Saint pour travailler, pour être vraiment des êtres autour de cette ascèse, de ces exercices, mais chacun d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, nous sommes invités à cela. Hein, ce n'est pas réservé à des élus, entre guillemets. Nous sommes tous, chacun et chacune, plus que jamais aujourd'hui, dans les grands temps de métamorphose hein, du monde, invités à une telle prise de conscience. Hein, et les combats que nous vivons actuellement à travers ces fanatismes religieux, à travers ces violences exacerbées, mes amis, mais vous le savez, d'abord, tout ça, ça naît de notre propre fanatisme. Donc je dirais aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est comment ne pas en être des victimes, mais comment entendre qu'en vérité, je dirais, c'est à mon avis aussi l'un des enseignements à entendre auprès des grands migrants aujourd'hui, hein, ce grand problème, cette grande thématique des migrants ou des migrations, ces hommes et ces femmes expulsés ou voulant partir de leur pays à cause de la violence, à cause de des souffrances, de la faim et la soif. Mais je crois que ces êtres aussi nous rappellent d'un point de vue spirituel à quel point nous sommes invités à retrouver notre vocation de migrant ontologique, de pèlerin ontologique, affamé, assoiffé de liberté, d'espace. Là, on est vraiment invité, je crois, à entrer dans cette logique du monde, d'être solidaire hein, de ce mal du monde, vraiment en lien aussi avec cette... Mais tout ça, vous le savez, hein, ce sont des pratiques que chacun, chacune vit au cœur de son monde, aujourd'hui, tel qu'il est. Donc, c'est dans ce sens, et donc c'est dans ce terreau monastique, voilà, que j'aimerais encore peut-être une diapositive un petit peu dense, là, et puis j'ai encore une ou deux, mais ça clôturera peut-être, après ce sera peut-être un peu plus simple au niveau intellectuel. C'est donc dans ce terreau monastique que j'aimerais maintenant venir et rejoindre un espace important aujourd'hui pour notre transmission, c'est d'entendre à quel point cette dimension contemplative dans le sein de l'Église primitive eh bien, va prendre dans la tradition particulièrement orientale de l'Église le nom d'hésychasme. Et cette prière, cette fondation d'un groupe de prières, hein, ici à Liège comme différents groupes de prières, se fonde, je crois vraiment, dans cette voie de l'hésychasme. En sachant que ce mot hésychaste, sensu stricto, ne va apparaître qu'au XIIIe, XIVe siècle, au moment du mont Athos. Hein, en fait, c'est quoi la grande tradition athonique, on va le voir tout à l'heure. Mais en vérité, les fondements de l'hésychasme, on les trouve dès l'Évangile et surtout après, dès la grande tradition de ces hommes, de ces femmes qui naissent dans le désert. Et tous nos espaces monastiques qu'on retrouve en Occident, hein, donc Saint-Benoît en particulier avec nos frères ici qui nous accueillent, donc Saint-Benoît qui va être du VIe siècle, Saint-Benoît va se nourrir beaucoup de ses écrits. Saint-François, mais aussi Saint-Bernard de Clairvaux, lira beaucoup. Toute cette grande tradition monastique occidentale va naître où va trouver ses racines en l'adaptant à la terre occidentale et à travers la pensée structurative hein, d'un saint Benoît, puis après d'un saint Bruno, hein, dans la différente tradition. Mais tous ces courants naissent, tous ces mouvements naissent fondamentalement de cette origine contemplative de la première Église. Hein qui est à la fois en Orient et en Occident. Simplement vous rappeler que d'ailleurs le mot hésychasme, qui est peut-être un mot un peu nouveau pour certains, en grec, hésychasmos, donc Ézéchiel littéralement en grec, veut dire quiétude, paix, contemplation, tranquillité, calme, repos, douceur, silence, retraite solitaire, bref, hein, Ézéchiel. Alors le mot grec qui est là, hésychazo, se tenir tranquille, se tenir en repos, demeurer silencieux, garder le silence. Ah, le silence! C'est important aujourd'hui le silence, mon Dieu. Pour éviter, comme on le rappelait ce matin, de rajouter du bruit à du bruit sans arrêt, dans les débats qui n'arrêtent pas d'être là, un peu de silence au cœur de toutes nos paroles qui sont hein, souvent dans ces débats de société. C'est important cette polémique. Mais quelle grâce d'être là, de se taire pour vraiment recueillir ce silence. Et ce silence, vous le savez, c'est ce que traduit le mot hébreu « shalom ». Ce shalom, cette paix, et vous vous rappelez qu'en hébreu, cette paix, ce n'est pas une paix arrêtée. L'amed, c'est vraiment la mise, l'aiguillon, la mise en mouvement vers le shem. Et qu'est-ce que c'est que le shem en hébreu? C'est notre nom unique, cette manière unique qu'on aurait d'être nommé par le Seigneur. cette manière unique que nous avons en devenir d'incarner l'amour, la conscience. Cette shalom dont il est question, c'est une paix qui voudrait nous... Enfin, c'est un mouvement qui aimerait nous conduire vers les profondeurs du cœur. Et découvrir là, comme dira saint Augustin, oh, cette présence que je croyais extérieure à moi-même et que je découvre plus intérieure à moi-même que moi-même. Et je me découvre là en tant que personne unique. Et là, quelque chose s'apaise. Quelque chose d'intérieur. Hein, cette shalom, c'est vraiment cette paix telle que traduit le mot hébreu. Et le mot hébreu dira aussi par rapport à shalom qu'on n'est pas en paix tant qu'on n'est pas entier. La paix est une question, c'est un climat d'entièreté. Hein, tant qu'il y a des zones inaccomplies, inachevées en nous, nous goûtons à des paix, mais des paix encore conditionnelles. Des paix que l'on a, mais qu'on peut ne plus avoir à un moment donné. Si telle ou telle situation disparaît, du coup, on n'est plus en paix. Un être nous quitte, on n'est plus en paix. On quitte un lieu. Vous sentez comment nos paix sont conditionnelles. C'est pour ça que certains diront que notre chemin spirituel, c'est le passage, mes amis, de la paix que l'on a à la paix que l'on est. De l'amour que l'on a à l'amour que l'on est. Aux joies que l'on a à la joie que l'on est. Et ce je suis qui aime en nous, ce Christ intérieur, il est joie, il est paix, il est amour, il est... Donc c'est pour ça que le Christ dira, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix du monde, mais je vous donne ma paix, cette paix inconditionnelle, dans une transfusion de sérénité, pour vous inviter à rejoindre, non pas une paix que vous avez simplement vous, souvent ces paix conditionnelles, mais de goûter de plus en plus à une paix inconditionnelle. Je crois que c'est ça notre rêve, enfin franchement, un jour être en paix de manière inconditionnelle. On ne pourra plus nous retirer cette paix ou cette joie. Enfin, en sachant que tant qu'il y aura de la souffrance au cœur du monde, il y aura toujours un lieu en nous qui ne pourra pas complètement être en paix profonde. Mais quand même, au-delà de ça, on touche à cette paix invincible. Hein, et c'est donc finalement ce que nous dira ce tableau de droite. Qu'est-ce que c'est que l'hésychasme dans lequel on va maintenant rejoindre le sens de votre pratique? C'est une méthode de vie spirituelle, mystique, issue du monachisme primitif, et fruit de la tradition ancienne de l'Église. Donc finalement, l'hésychasme, hein, je le dis en d'autres mots, c'est une solitude et un silence extérieur qui va favoriser le recueillement de l'âme. On a besoin de silence, de se retirer du monde, goûter un silence, comme ici, dans des lieux bénis, qui sont par la prière des frères et sœurs, qui sont là présents, comment on est nourri et donc on est plonger quelque part dans un espace de silence extérieur, favorisant le recueillement de l'âme. Mais l'hésychasme, plus profondément encore, c'est un calme intérieur que procure ce qu'on appelle en grec la nepsis, qui est un terme grec signifiant la sobriété comme étant de vigilance, comme état de vigilance à l'égard des pensées et plus largement de toute activité de l'imagination et du discours intérieur. Vous sentez cette sobriété? Et là, on découvre un monde qui n'est tellement pas uniquement réservé, comme on le dit souvent, à ce monde émotionnel tellement rencontré chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Dans le christianisme, il y a une authentique transmission et une école de vigilance sur le monde intérieur, sur les pensées, sur tout ce monde qui nous habite, qui nous divise, qui nous déchire, qui nous prend en main, qui nous manipule, ce qu'on appelle la garde du cœur. Tout cet état de vigilance à l'égard des pensées. Et où là, progressivement, en donnant moins de pouvoir à toutes ces pensées, à ces réactivités, on entre dans un calme. Où on est entré dans un calme intérieur, hein, grâce à l'Esprit-Saint. Et de manière donc plus générale encore, c'est une paix de l'âme unifiée, rassemblée en elle-même, par l'action de l'Esprit-Saint. C'est le repos de l'âme en Dieu. C'est l'acquisition de la paix du Christ. C'est une expérience intérieure. C'est une expérience intérieure. C'est pas du jour au lendemain. On y goûte et après on est à nouveau happé. C'est tout notre chemin. Où on est sans arrêt pris en main par des forces. Reviens à ton cœur. C'est vraiment le sens de tout notre exercice quotidien. C'est vraiment tout le sens de notre chemin que nous aurions à vivre. Voilà, une petite pause pour respirer à l'air quand même. Malheureusement, là, c'est un petit peu sombre, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle a perdu un peu de force, la lampe, non ? Bon. Bref, c'est une image des hauts déserts d'Égypte. Voilà, je continue à poser encore deux diapositives pour revenir quand même, parce que c'est fondateur pour nous, ce qu'on appelle donc l'hésychasme, tradition contemplative oubliée en Occident. Oubliée en Occident. Où on a beaucoup, encore une fois, configuré méditation, contemplation dans les dimensions plus orientales ou extrême-orientales, bon, avec toutes ces dimensions d'oraison aussi, bien sûr, dans la mystique occidentale, mais l'hésychasme est né très tôt. Et elle propose ainsi un mode de vie mis au service du plein développement de la grâce du Christ. La tradition hésychaste repose sur une anthropologie et une théologie de la déification. Donc là, ça chauffe un peu, là, maintenant. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En fait, c'est à la fois... Ça chauffe beaucoup, en même temps, c'est assez simple, en vérité. C'est que, voilà, ce don d'Esprit Saint qui va faire que la patte humaine se laissant travailler par le Christ et l'Esprit Saint, eh bien, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit capable de devenir Dieu, avec un petit dé, par participation. Et la prière, l'hésychasme, est au service de cela. C'est comment rendre l'humanité disponible, comme une grande place nue, pour permettre à l'œuvre de l'Esprit d'accomplir le travail du feu, de transformation de la matière charbonnée que nous sommes, mais avec nos corps de mémoire, nos misères, nos limites, nos péchés, comment l'œuvre de Dieu va venir travailler cette terre mère, cette terre dure, cette terre en exil, et parce que l'humanité s'ouvre et s'abandonne, eh bien, toute cette terre va être transformée, et l'homme va être capable. C'est l'incroyable message de devenir capable, de passer à la ressemblance de Dieu. Cette humanité sanctifiée, capable d'amour, capable de joie, capable d'actes, et avec des saints anonymes aussi, des êtres totalement, souvent comme communs du mortel, mais qui ont vraiment été saisis par l'Esprit. Donc, tout ce mouvement est inséparable d'une pratique. Et donc, c'est ce que je vais vous inviter maintenant, après qu'on verra dans la troisième partie de la journée. Et là, je propose, après ce beau soleil, ce soleil qui aurait à habiter. Vous savez, un peu l'histoire, vous savez, c'est une image toute bête. C'est une petite maison dans la prairie qui est fermée sur elle-même, avec les volets et la porte. Tout est fermé. Puis il y a le soleil qui darde ses rayons. C'est ce que nous sommes. À nous maintenant d'ouvrir les fenêtres et les volets pour laisser la lumière entrer dans cette demeure d'humanité que nous sommes, de la laisser être visitée pour que l'esprit, le souffle, puisse la respirer et transformer cette petite maison qui souvent, lorsqu'elle est enfermée en elle-même, n'arrête pas de tourner en rond. Vous vous rappelez, en hébreu, tourner en rond, mahala, c'est la maladie. Quand on tourne, enfin, le lieu de la maladie, c'est arrêt sur image, je ne sais pas comment dire. On tourne en rond. Il n'y a plus de sortie, l'impasse, où on tourne en rond. Donc c'est vraiment, il y a un mal qui se dit là, à ce moment-là. En tout cas, c'est dans l'approche hébraïque assez étonnant comme étymologie. Voilà, et dernière diapositive promis. Eh bien en fait, pour conclure, l'enseignement de l'hésychasme, et comme ça j'en aurais un petit peu posé les fondements de ce que je voulais proposer, puise ses sources dans la grande tradition de l'Église, et donc a été principalement transmise par ce qu'on appelle la philokalie, ce grand texte, cette grande anthologie de textes, en langue grecque, qui rassemble des auteurs Donc, elle a été éditée, vous le savez, au XVIIIe siècle par deux moines du mont Athos, donc en langue grecque, et qui rassemble des enseignements sur la vie intérieure entre le IVe et le XIVe siècle. Donc ce mot philokalie veut littéralement « amour de la beauté ». Et ce qui est incroyable quand même au passage, c'est que ce livre, qui va être édité, je crois, à Venise en 1760 et quelques, va apparaître en Occident au même moment que l'Encyclopédie des Lumières. C'est-à-dire au moment où on fait l'apologie du « je pense donc je suis » de Descartes, avec toute la, ce que ça veut dire au niveau anthropologique, avec vraiment la dimension de l'homme aussi dans une dimension intellectuelle et la pensée exacerbée dans ce monde des Lumières, de manière concomitante apparaît une anthologie qui nous parle de la vie intérieure, de la vie de la mystique, dimension masculine, dimension plus féminine de l'accueil, au même moment, pratiquement en 1760-1780. Et donc, dans cet amour de la beauté, la prière de Jésus, prière du cœur, est l'élément fondamental de la tradition hésychaste. Notre prière, dont il est question autour de ce séminaire, enfin de cette journée d'enseignement, en tout cas, eh bien, la voilà qui réapparaît. Elle va être le moyen habile, l'élément fondamental de cette grande tradition qui aimerait nous introduire dans cet espace de paix, cet espace du cœur. Et donc, ce que je propose maintenant, mes amis, c'est de faire la connaissance avec des visages. Ça va être peut-être moins fastidieux. Vous allez voir, donc c'est, je crois qu'on s'arrête à 5h30, hein, à 3h30, hein, c'est ça, un temps de silence. Donc là, c'est simplement de faire la connaissance avec des hommes et des femmes, hein, qui vous ont peut-être, donc en sachant que tout a commencé au départ en Égypte, au cœur des premières communautés chrétiennes, donc du deuxième, troisième, quatrième siècle. Donc c'est vraiment là que sont nées les différentes communautés. Donc cet appel du désert, pas particulièrement donc ici, hein, ça a commencé donc pour nous au niveau du christianisme. Et donc voilà les grandes figures. Donc ça, ce sont c'est plus des lieux contemporains. Je dirais ça aujourd'hui qu'on retrouve. Je crois que c'est le monastère de Saint-Antoine ou Saint-Paul de Thèbes, hein, à la vérifier encore une fois avec peut-être certains qui y sont allés, hein, donc j'ai plus les références là maintenant de la diapositive. Mais là, on va donc, eh bien, qui sont nos pères et nos mères? C'est-à-dire qui sont ceux et celles qui, il y a donc maintenant 1500 ans, 1600 ans, 1700 ans, ont pris le chemin que nous aussi aujourd'hui, quelque part à notre mesure, en créant ce groupe de prière ou en étant dans cette vie de la prière du cœur, eh bien, on fait ce chemin. Rappelez-vous, saint Antoine le Grand, hein, cette grande vie de cet homme qui va entendre un appel bouleversant du Seigneur à travers l'Évangile. Saint Pacôme, donc là, on va simplement les signifier. Donc là, c'est vraiment les saint Antoine, surtout la vie d'ermite. Saint Pacôme va structurer le monachisme plus en vie communautaire, hein, en plus en vie cénobitique, on dira dans la tradition. Là, n'oublions pas non plus, à côté de ce grand monachisme du désert, n'oublions pas ce grand monachisme aussi dans les villes, au IVe siècle aussi, nourri par la grande tradition des pères cappadociens, saint Basile le Grand, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, hein, donc Basile, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, qui vont vraiment, donc, dans cette fraternité diamant, nourrir cette grande vie monastique, cette grande vie hésychaste, et où ça ne va pas non plus s'opposer, pour eux en ville, avec la création de dispensaires, d'hôpitaux, d'orphelinats. Hein, donc, n'oublions jamais que la vie contemplative n'est pas au détriment d'une diaconie, hein, quelque part, et de l'inscription au cœur d'une vie dans la société très importante, mais nourrie par cette prière, par cette contemplation. Donc c'est important également, dans cette vie monastique, la prière du cœur, prière de Jésus, l'invocation du Saint-Nom, hein, cette prière qu'on reçoit maintenant en l'an 2000, va doucement se construire à travers la prière et les différents lieux qu'on va donc décliner maintenant. Donc en Cappadoce, hein, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, ces grands anciens aussi, Macaire, qui est un fella, hein, un paysan, comme Saint-Antoine, donc pratiquement à 20 ans, 20 ou 30 ans près, enfin un peu plus, hein, une cinquantaine d'années, c'est une génération après, puis Évagre le Pontique, hein, donc ce sont peut-être des noms pour certains, qui va être très important, parce que lui va intellectualiser et il va nourrir de l'enseignement d'Origène, il va venir en fait proposer une anthropologie et toute une théologie, justement, de ce mouvement de la prière avec la connaissance, la reconnaissance d'une forme d'anatomie spirituelle, comment l'homme est formé, corps, âme, esprit, avec la pensée grecque. Donc c'est toute une approche très intéressante qu'on pourra approfondir aussi. Donc plus intellectuel et plus, voilà, plus intuitif ou plus expérientiel, enfin je dirais, avec Saint Macaire le Grand, je dirais, à travers sa connaissance de l'âme humaine. Voilà, on continue, voilà, on va simplement décliner. Voilà, quelqu'un d'important pour nous, par contre, c'est que tout a commencé dans ces déserts de Haute-Égypte, diront certains, mais la grâce, la providence divine, a voulu qu'un homme, en Occident, naisse, alors on ne sait pas trop, soit en Roumanie, soit en Provence, en tout cas, dès le IVe siècle, un homme important pour nous, c'est Saint Jean Cassien, parce que Jean Cassien, dans son périple, que j'ai essayé de résumer ici, alors il est né soit ici, sur les bords du Danube, soit certains diront à Marseille, à la Ciotat. En tout cas, peu importe, cet homme part avec Germain, ils ont 15-20 ans, comme deux jeunes, avec le sac à dos, avec le routard, non, à l'époque ça n'existait pas, mais le guide du routard, mais en tout cas, il part donc avec les bonnes adresses, et en fait donc, porté par la foi et par le désir de retrouver les lieux saints, ils vont donc, vous savez, d'abord s'inscrire 1, 2 ans, 3 ans à Bethléem, donc dans le patriarcat de Jérusalem, ils vont être novices, ils vont y vivre quelques années, et ils vont être très touchés par l'apparition, la rencontre avec un abat, l'abat Pinuf, qui vient de Haute-Égypte, et donc leur désir va être de rejoindre très vite les déserts de Haute-Égypte, justement là dont on vient de parler. Donc ils vont y rester 10 ou 15 ans, hein, certains diront entre 385, 386 et 399. Alors certains c'est 10 ans, il y a différentes versions, et donc là ils vont récolter un ensemble d'enseignements qu'ils vont écrire sur des rouleaux de papyrus, hein, donc avec des très belles collations, des très, très beaux enseignements, et pour différentes raisons sur lesquelles on va passer, ils vont être invités à quitter le désert avec un groupe pour rejoindre après, eh bien, Constantinople. Jean Cassien va être fait diacre par le patriarche Jean Chrysostome, à l'époque, qui est en grande difficulté avec Eudoxie, toute la, je dirais, toute la dimension de l'empereur. Et après l'exil de Jean Chrysostome, ils vont repasser par Rome pour après, en 415, arriver à Marseille. Donc, en fait, c'est vraiment un homme étonnant parce que, au début du 5e siècle, il va relier les 5 patriarcats importants de la chrétienté. Hein, il est vraiment le lien, et il va ainsi ensemencer la terre provençale et occidentale de toutes les informations du monachisme, et certains diront qu'il est vraiment le structurateur, celui qui va permettre enfin en Occident la structuration du monachisme dans l'Église d'Occident. Hein, donc c'est un homme qui parle le grec, qui parle le latin, hein, donc c'est un érudit, et il va donc... Donc là, c'est un petit peu son périple. Hein. Donc là, il va rencontrer tous les anciens dans le détroit du Nil. Enfin, il y a très très belles histoires. Là, on a beaucoup accompagné Jean Cassien à Saint-Michel. C'est vraiment l'un des grands-pères, hein, qu'on honore beaucoup là en Provence. Donc il va aller également rejoindre la communauté d'Honorat de Lérins. Hein. Donc il va beaucoup nourrir le grand monastère lérinien à travers, donc vous le savez, ses écrits. Hein, maintenant qu'ils sont traduits, qui sont vraiment très intéressants. Hein. Institutions cénobitiques. Donc ils sont vraiment des usages monastiques, hein, c'est vraiment des, à la demande des grands évêques de Provence, voilà, Saint-Eucher, Saint-Léon, Saint-Castor d'Apt, voilà, Saint-Honorat, enfin, ces grands, grands évêques et moines, eh bien il va structurer des enseignements, voilà, avec différentes collations, des conférences, hein, donc il va en faire 24. Donc c'est quand même 3 livres comme ça maintenant, qui sont traduits en français, latin français, qui sont disponibles. Et donc c'est vraiment le paysage, vraiment cette transmission en Occident dès le 5e siècle. Et si on lit l'histoire de Saint-Benoît et même de Saint-Bruno, ils vont beaucoup s'inspirer des règles de Saint-Jean Cassien. Vraiment, le fondateur pour nous en Occident, c'est Jean Cassien. Enfin, l'inspirateur, l'inspirateur, celui qui vient apporter ce terreau monastique, et donc la prière. Il y a des passages merveilleux dans les collations d'une prière de feu, même si on ne parle pas encore de la prière de Jésus, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, dans les déserts, ce qu'il avait reçu comme parole à répéter sans cesse était « Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir. » Hein? Donc la sensation qu'à un moment donné, ces moines, ces hommes, ces femmes du désert, eh bien, ils vont monogénéiser leurs pensées en minimisant les mots et en entrant vraiment dans la répétition, une invocation, une répétition d'une phrase, d'un psaume ou d'un texte biblique. Donc c'est vraiment toutes les fondations de ce que sera la prière du Saint-Nom de Dieu après. Donc Jean Cassien, hein, pour nous là c'est vraiment un visage important. Et puis arrivent d'autres visages, des noms, hein, et c'est à travers leur expérience, donc là vous voyez on s'éloigne un petit peu quand même là, on est en 474, 5e siècle, Diadoque de Fautissé, hein, donc Marc Lacette, l'abbé Philémon, enfin bon voilà, hein, tout un ensemble de noms qui ne parlent absolument pas à certains et peut-être qui parlent à beaucoup d'autres. Hein, donc dans les apophthegmes, ces grandes paroles des pères du désert, on est vraiment là dans le grand mouvement des pères du désert, ceux qui ont expérimenté, ces grands théologiens, et ils sont théologiens parce qu'ils prient. C'est très intéressant aussi. On n'est plus vraiment dans le concept très occidental d'une théologie très intellectualisante. Est théologien celui qui prie. Et celui qui prie est théologien. Ça, c'est Évagre-le-Pontique. C'est vraiment la théologie dans une expérience profonde de la prière. C'est vraiment la véritable cette théologie qui nous dit quelque chose de Dieu par la prière, par l'expérience. Bon. Différents mouvements que je vais signifier, les grands maîtres spirituels de Gaza, hein, quand on voit aujourd'hui la terre de Gaza, ce qu'elle est devenue, les conflits qu'il y a actuellement, il y a des grands fondateurs aussi là, de ces moines qui sont là, qui étaient des grands anciens, hein, Saint Dorothée de Gaza, Saint Barzanuf, Saint Jean, enfin voilà, des images qui peuvent parler à certains, mais on voyage un petit peu là, donc dans les terres d'Orient, du Moyen-Orient. Là, on va migrer à un moment donné, parce que on a l'impression que dans l'histoire, il y a des écoles, il y a des climats, il y a la sensation qu'on va focaliser un peu plus sur telle ou telle partie de la géographie. Et après la Haute-Égypte, la partie qui va prendre la succession de cette haute école de prière, hein, c'est le désert du Sinaï, c'est le mont Sinaï. Ce lieu d'incandescence, hein, le buisson ardent, l'expérience de Moïse avec ce peuple, eh bien, le monastère Sainte-Catherine ici, la grande tradition de Saint-Jean l'Échelle. Donc là aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu tout cela, c'est à ce moment-là, avec Saint-Jean Climac, par exemple, qu'on va entendre invoquer le nom de Dieu, de Jésus, autant que vous respirez. Et la sensation qu'il y a à la fois le lien entre l'invocation du Saint-Nom avec une pratique respiratoire. Autant que vous respirez, invoquez le Saint-Nom. Ça apparaît donc au 6e siècle, hein, cette idée de... Voilà, ça se structure, ça se forme. Hein, donc le mont Sinaï, hein, la grande école du mont Sinaï. Donc, voilà, donc, qui est toute une théologie particulière, mais toujours avec la prière, une grande école monastique, 6e, 7e siècle. Alors on parle des pères, mais il y a aussi les mères. Eh oui, magnifique. Sainte Marie l'Égyptienne, que vous connaissez bien, peut-être, hein, certains, une vie absolument bouleversante. Hein, et puis tout un ensemble de mères, il y avait des communautés également au cœur du désert. Hein, on avait proposé un enseignement au monastère, vraiment très très touchant. Alors elles ont moins écrit, mais il y a vraiment des perles étonnantes. Saint Clétique, Théodora, Sarah, il y a vraiment tout un ensemble de... Hein, Saint Clétique est absolument incroyable, hein, comme femme dans la 16. Il y avait donc des communautés de sœurs qui sont là aussi, très clairement présentes au cœur du désert. 4e siècle, 5e siècle. Voilà, après on va quitter, pour rendre aussi hommage aujourd'hui à un pays tellement dévasté par la guerre, hein, la Syrie, ces grands anciens qui vont aussi féconder, hein, ce pays, Saint Ephrem, Saint Isaac, enfin tout ça, hein, ce sont des grandes figures pour certains que vous connaissez, d'une fécondité, d'une richesse théologique, enfin mystique. Saint Isaac le Syrien, c'est absolument remarquable, hein, donc au 7e siècle, 8e siècle, hein, ce grand chantre qui est Saint Ephrem, ce grand poète, hein, ces grandes, ces belles paroles donc, en langue syriaque, hein, donc, rendre hommage aussi à tous ces êtres qui sont nos pères, nos anciens. Là, on continue un peu à dérouler la page de l'histoire et on entre un peu plus en ville maintenant avec la grande théologie, la grande présence de l'école donc en l'an 1000, hein, 900 000, et avant ça, c'est la grande présence de Saint Maxime le Confesseur, mais théologie et spiritualité à Byzance. Hein, donc on est vraiment là en Occident. 662, hein, donc c'est à peu près le moment où il y a, c'est un petit peu avant Saint-Égulfe, donc abbé à l'abbaye de Lérins, hein, pour faire un peu le lien aussi entre les frères et sœurs, enfin les frères. Voilà, Saint-Siméon le Nouveau-Théologien, l'immense mystique. Hein, donc là, on décline un petit peu cette grande tradition. Je passe, hein, parce que là, c'est vraiment toujours, encore une fois, l'expérience de cette prière avec des images de lumière, de transfiguration, de visitation. C'est des moments absolument à approfondir. Hein. On ne fait que survoler, c'est pas le sens forcément du partage aujourd'hui. Et puis là, arrive en l'an 1000, hein, cette grande école qui va donner donc l'hésychasme atonite, hein, ces grandes traditions monastiques, hein, que certains sont allés visiter aujourd'hui, bien sûr, dans la grande protectrice et la mère de Dieu, hein, Marie, la Sainte Vierge. Et donc là, on entre vraiment dans la grande école de la tradition de la prière du cœur, de la tradition hésychaste. Et quelque part, on est des descendants, enfin, on est vraiment des êtres qui participent à cela, hein. Ces êtres ont donné leur sang, ont donné leur vie pour transmettre une pratique de paix, pour qu'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, on puisse nous-mêmes participer à cela, avec un temps différent, mais nourris de leurs enseignements, de leurs prières, de leurs labeurs. C'est grâce à tous ces êtres-là. Comment ne pas leur rendre hommage? Vraiment, je trouve voilà, qu'on est là aussi, qu'on s'interroge et qu'on essaie de trouver un chemin dans les grandes questions contemporaines. Comment retrouver cette paix? Il y a 2000 ans, comment retrouver cette paix du cœur aujourd'hui, hein, portée par leurs prières. Donc ces grands visages, je m'excuse, là pour certains c'est beaucoup de listes, mais voilà, qui peuvent parler à... Voilà, le grand structurateur, vous le savez, c'est Grégoire Palamas, hein, la grande figure de l'hésychasme, qui va vraiment valider et signifier à quel point, dans la prière du cœur, ce que ces moines vivaient comme illumination n'est pas une création de leur esprit, c'est vraiment une visitation de l'Esprit-Saint, hein, qui vraiment les rendent théophores, hein, dans cette dimension de l'intellect purifié, et c'est vraiment le don de l'Esprit-Saint à travers le don des énergies incréées. Hein, on pourra en parler, si vous voulez, plus profondément tout à l'heure. Voilà, différents noms qui peuvent parler là aussi à certains, d'autres moins. On fait un petit peu de plus encore, et là on va monter vers le nord, la grande tradition de l'hésychasme en Russie, Saint-Serge de Radonej, hein, Saint-Nilsorski, voilà, donc ce sont des écoles, là aussi, importantes, hein, la Russie ayant été, à travers l'Ukraine, baptisée tardivement, hein, à la fin du Xe siècle. Et puis là, on se rapproche quand même plus, là quand même, là je pense que vous connaissez maintenant, à gauche, là-bas, vous connaissez, là-haut. Ah oui, ça c'est Raphaël. Alors, lui. Non, c'est lui, Ignace. Ça, c'est Théophane le Reclus. Hein, Théophane le Reclus, dont on a beaucoup lu certains textes. Et lui, c'est un grand restaurateur, hein, justement, qui a retraduit en moldave et en russe aussi la philokalie. C'est Païssy Velitskovski. Hein, c'est vraiment l'un des grands restaurateurs. Voilà, pour certains, c'est pas... Mais voilà, des hommes qui ont participé à évangéliser toute cette terre slave. Et puis, bien sûr, c'est à cette époque-là qu'ont été écrits aussi et repris sans doute par des starex, par des anciens, ce très beau petit livre, hein, que beaucoup connaissent, hein, vraiment qui est une florilège, hein, qui est vraiment c'est à cette époque-là, hein, donc ces grands pèlerins russes, hein, qui sont là. Et puis plus récemment encore aujourd'hui, hein, Saint-Silouane à gauche, Sophronie, et puis l'ancien Joseph l'Hésychaste. Donc là, on est vraiment voilà, ces grands transmetteurs, si vous voulez, pour vous signifier, c'était vraiment le sens, hein, de ma démarche, c'est vraiment pour vous signifier, eh bien, que nous faisons partie, mes amis, du d'une généalogie spirituelle. Et que souvent, on a tendance parfois souvent à entendre, lorsque nous parlons de... Vous savez, dans certaines traditions, dans le bouddhisme zen par exemple, hein, souvent les moines ou les pratiquants font leurs vœux sur une lignée, hein, sur une lignée d'hommes ou de femmes qui les ont précédés, chez les bouddhistes aussi et même chez les soufis, hein, ça arrive souvent aussi, qui est vraiment la notion d'une lignée spirituelle, hein, qui est rattachée à telle ou telle figure. Eh bien, on l'a un peu oublié en Occident, mais il y a aussi une lignée spirituelle pour nous. Nous descendons d'hommes et de femmes. Hein, donc, c'est ce que j'ai un petit peu voulu signifier à travers cet arbre, hein, enraciné dans sa beauté, dans sa profondeur. Hein, donc, cet arbre dans le collet, donc c'est vraiment le Christ, hein, le maître de la pratique, hein, celui pour qui tout s'enracine, avec donc, voilà, avec donc la mère de Dieu, la femme samaritaine, Marie-Madeleine, etc. Et puis Jean, bien sûr, l'évangéliste. Et comment, dans cet arbre de vie, cet arbre généalogique, on pourrait le dire d'un point de vue spirituel, vont se succéder des générations d'hommes et de femmes qui ont transmis la prière de cœur à cœur, cette prière que Jésus avait transmise à la femme, samaritaine. Cette prière, donc, de cœur à cœur, et donc un ensemble d'hommes et de femmes qui ont transmis cette prière, en vous rappelant aussi, mes amis, que, alors qu'on aurait l'impression dans mon discours que c'est resté très souvent et très longtemps configuré uniquement au milieu monastique, en fait, quelqu'un comme Grégoire Palamas et aussi saint Séraphin de Sarov parlera beaucoup de cette notion d'un monachisme intériorisé et où finalement il appellera tout le peuple à prier. Et que ce n'est pas une prière uniquement réservée dans une transmission de cœur à cœur à des communautés monastiques. C'est vraiment une prière maintenant qui, dès le XIIIe, XIVe siècle, mais même avant, même dès le départ, va vraiment infuser vraiment dans les couches de la société. Il y a vraiment des êtres dans leurs chambres, à Byzance, en Afrique du Nord, en Gaule, à Rome, en Belgique, à l'époque, qui priaient avec cette pratique. Donc, elle ne tombe pas du ciel aujourd'hui, quoi, je dirais. On est vraiment les descendants d'une telle pratique. C'est une terre qu'on retrouve, en fait, qui a été beaucoup oubliée en Occident. Et ça, je crois que c'est important de bien le rappeler, on a un héritage très important, hein, qu'on redécouvre, mais qui vraiment, une grande tradition contemplative, hein, qu'on redécouvre aujourd'hui, de manière très profonde. Et donc, peut-être pour conclure cette deuxième partie, avant que nous vivions un petit moment donc, de prière et avant la pause, peut-être finalement nous se rappeler quelques aspects de ce qui pourrait être, là aussi je vais le survoler, hein, je vais le survoler forcément, mais avant de rejoindre une méthode qui sera le sens de la troisième partie du partage, avec des choses peut-être très concrètes, peut-être pour certains plus concrètes que ça ne l'est actuellement, voilà, peut-être replacer certains préalables de ce qui pourrait définir cette voie de l'efficacité, cette voie de ces quêteurs de paix, de ces artisans de paix. Hein, on parle beaucoup de paix, hein, ces artisans de paix. Hein, donc, c'est vrai que de manière générale, hein, le lien à la solitude et au silence est particulièrement prégnant. Ça, je crois que ceux qui veulent vraiment entrer, hein, donc tout à l'heure on l'a rappelé, comment réapprendre cette grâce du silence, hein, du silence, alors parler quand il faut parler, en même temps, voilà, cette grâce du silence qui est un don de l'esprit, hein, peut-être qu'il faut aussi beaucoup parler avant de se taire, et parce qu'il peut y avoir des silences tellement habités et tellement pleins de paroles, justement, hein, mais comment un silence extérieur et consentir à une solitude va permettre, je dirais, d'ouvrir à l'intérieur des espaces de notre matière, au désert de soi. Et puis, on va découvrir aussi, dans la tradition, dans la voie efficace, le lien aussi important avec une paternité ou une maternité spirituelle. Certains insisteront là-dessus. Pour beaucoup aujourd'hui en Occident, c'est pas évident, hein, la reconnaissance du père ou de la mère spirituelle. Donc une communauté ou une église peut faire office de cela, ou simplement des enseignements écrits, ou en tout cas, le lien qu'on n'est pas tout seul, et qu'on est en lien avec une généalogie. Moi, je me souviens, j'ai vécu une expérience assez incroyable lorsque le père Jean-Séraphin, en 2001, m'avait transmis de manière personnelle la prière du cœur qu'il avait reçue au Mont Athos, dans ce cœur à cœur. Je me souviens, on était tous les deux donc à l'hôtel du monastère Saint-Michel. Je vous dis ça parce que c'est pour une expérience qui peut être parlante pour certains. Et donc, c'était l'après-midi, c'était la transfiguration, on s'est retrouvés tous les deux. Voilà, donc il m'avait mis la main, lui-même étant dépositaire d'une transmission au Mont Athos. Donc je m'étais mis à genoux devant l'autel, avec des chapelets. Donc ce chapelet qui permet la transmission finalement de père à fils, en tout cas dans une dimension spirituelle. Et en fait, sur le coup, j'ai rien ressenti en fait. Voilà, j'ai reçu la bénédiction. Mais le soir, quand je suis rentré dans ma cellule, je me suis mis devant l'autel. Et mes amis, c'est incroyable ce que j'ai vécu. C'est comme si j'étais relié, j'ai vu tout le lien avec les anciens. C'est impressionnant. Et j'ai goûté, 3 minutes, ce qu'était la véritable humilité. Maintenant, c'est plus le cas, hein, mais je dirais ce qu'est l'humilité. C'est-à-dire la grâce d'être rien. Hein, vraiment ce qui avait été transmis à ce moment-là. Et c'est vraiment prégnant, ce lien avec une famille spirituelle. Avec des aides vraiment qui nous portent hein, dans la communion des saints. Hein, cette filiation spirituelle qui est très particulière, hein, qui est vraiment une expérience très profonde. Voilà, et c'est vrai que dans ces dispositions fondamentales, mes amis, hein, je crois qu'il va ouvrir à cette voie de l'efficacité. On parlait d'humilité, justement. Et là, c'est vrai que je n'ai pas résisté à cette envie de vous resituer ce magnifique tableau de Rembrandt hein, sur ce fils prodigue. Et là, je crois qu'il n'y a pas un tableau, enfin, sans doute, à regarder comme une icône, pratiquement, je dirais, mais de ce que peut être l'amour du Père pour le Fils, pour l'enfant que nous sommes tous, venant s'échouer. Il s'attendait au juge et il achève de naître, vous vous rappelez, dans les bras du Père, dans cette belle poésie du Père Paul Bodiquet. Il s'attendait au juge et il achève de naître dans les bras du Père. Avec qu'on ne voit pas forcément très bien ici, mais lorsqu'on s'approche du tableau, hein, rappelez-vous cette intuition incroyable de Rembrandt. Hein, c'est la main d'une femme et la main d'un homme. Hein, ça vous rappelle ce tableau merveilleux qui est là. Eh bien, la posture, finalement, de l'hésychaste, cette posture de l'être qui se sait limité, qui se sait pauvre, qui sait qu'il n'a rien, qui sait qu'il est déserté, qui sait qu'il est misérable, dans sa ténèbre, dans son ombre, dans son péché, et en même temps qu'il est infiniment aimé. Et dans cet amour-là, je dirais, il est recréé. Il y a ce lien tellement important de retrouver, mes amis, cette certitude que nous sommes aimés, que ce n'est pas qu'un tableau extérieur, que vraiment chacun d'entre nous, à n'importe quel moment de notre vie, là où nous savons que nous avons pu manquer la cible, là où nous savons que nous avons pu attenter à la vie ou à l'amour, à ce moment où on est agenouillé et où on peut ressentir à quel point on n'a pas été juste. Prends pitié de moi. Au secours, donne-moi. Là où on a la reconnaissance d'avoir attenté. Et ce n'est pas quelque chose de moral, c'est quelque chose d'intérieur. On a mal à la vie. À la fois, peut-être d'un point de vue personnel, mais aujourd'hui, je pense qu'on a mal à la vie par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Comment ne pas demander pardon pour l'humanité, enfin je dirais, pour l'inconscience, pour l'ignorance. Pardonne-nous de notre ignorance, de notre folie aujourd'hui. Et je crois que c'est arrivé à certains d'entre nous, de, comme ça, d'être agenouillés, au secours, dans ce chemin d'humilité, de reconnaissance, de vraiment demander pardon. Et en même temps, je dirais, de se sentir être délié, sentir être baigné d'amour, et de sentir qu'on est aimé, qu'on est infiniment aimé. Avant la dispersion des mondes, avant cette atomisation, avant cette errance, je t'ai tellement attendu et espéré. Nous sommes aimés de Dieu, vraiment aimés. Même si c'est vrai que parfois on a du mal à le ressentir, parce que je crois qu'on a perdu confiance. On a perdu confiance, profondément. Certains diront que le paradis perdu, c'est la confiance perdue. Perdu confiance en l'amour, d'être aimé inconditionnellement, au cœur même de nos ombres, au cœur même de nos difficultés, au cœur même de notre misère. Eh bien oui, on est aimé, on est espéré, on est envisagé, on nous donne un visage, c'est vraiment... Mais c'est comme si, je dirais, cet amour de Dieu, ce pardon de Dieu, il pouvait être opératif de notre matière si on s'agenouille. Parce que l'agenouillement, c'est un moment où la porte s'ouvre et où on permet à la grâce de Dieu de venir faire son œuvre à l'intérieur. Tant qu'on n'est pas agenouillé, je ne sais pas comment dire, c'est comme si on reste encore en train de se bagarrer contre soi, contre Dieu, contre la vie. On n'est pas. Il y a un moment donné où la vie nous agenouille. Et vous savez qu'en hébreu, cet agenouillement, la beraka, nous met à genoux, berek en hébreu. Et berek en hébreu, bar, kaf, c'est littéralement se mettre en capacité de recevoir la parole du Père qui dit « Mon fils, ma fille, toi, je t'aime de manière unique. » Donc être agenouillé, être en posture d'agenouillement, comme ce fils, c'est vraiment retrouver la grâce de se sentir engendré par le Père. Pour beaucoup d'entre nous, on a à réapprendre à être fils et fille. Fils et fille du vivant, fils et fille de la vie. Fils et fille, donc, c'est comment redonner à Dieu cette place de Père, qui au-delà de la dimension sexuée, je dirais bien sûr, Père-mère, ce Père qui a un ventre. C'est là où vraiment l'intuition de Rembrandt est magnifique. C'est un père qui a une main de femme, je ne sais pas comment dire, une main de mère. Ça, c'est bouleversant. Cette miséricorde, cet amour infini qui nous engendre. On a oublié ça, mes amis. On est tellement devenu rationnel, tellement devenu trop loin, être parfois un peu... On a oublié ce mystère simple de combien nous sommes aimés, vraiment profondément. Et ça, c'est vraiment, je crois, vraiment c'est préalable à cette voie efficace, de vraiment retrouver cette conscience-là. Voilà, et puis, peut-être une... Donc, vous vous rappelez que l'œuvre du retournement, vous vous rappelez, dans le fils prodigue, conscient de l'erreur de visée, de manière fulgurante, rentre en lui-même. Il quitte l'extérieur, rentre en lui-même. Je sais pas comment, enfin, il faudrait que je me tourne à l'intérieur moi-même, je ne sais pas comment dire. Rentre en lui-même, et là, il se met en route vers son Père. Là, ce mouvement, c'est ce qu'on appelle en hébreu teshuva. Shub. Littéralement en hébreu, c'est on change de posture parce qu'on sait que là, on se trompe, on change d'attitude. C'est vraiment un retournement, un teshuva qu'on a appelé aussi métanoïa en grec, et puis ce mot pénitentia qui est devenu pénitence en français. Et vous savez comment dans nos églises le mot pénitence a perdu ce côté, c'est devenu un petit peu trop moral pour nous, c'est coloré très, très moral. À l'origine, c'est un mouvement vraiment de. Oui, tu me passes le père matricien, c'est ça de André Chouraki. Et c'est vrai que, au passage, au niveau de ces invocations, de la prière du cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi. On le verra tout à l'heure, mais ce prends pitié en hébreu, c'est matricimoi. C'est-à-dire, du coup, ce père, cette miséricorde en hébreu, littéralement, c'est un utérus. En hébreu. Rehem, rahamim en hébreu. C'est l'utérus, les entrailles, c'est un lieu où on est enfanté. Matricimoi, enfante-moi à une nouvelle vie. Cette prière nous invite à une renaissance, à cette naissance dans l'utérus divin, je pourrais dire, enfin, cette dimension matricielle de cet amour utérin et je dirais, qui nous enfante. Voilà, et puis une dernière, ça ce sont un peu les préalables à cette voie égicaste. Voilà, et la dernière diapositive, donc, qui va conclure notre partage, c'est simplement rappeler ici, devant cette posture admirable de cet homme encore à genoux, qui est Saint Séraphin de Sarov, donc priant devant la Vierge Marie, voilà, cet homme épris de Dieu, cet homme se brûlant, Séraphin, Saraf en hébreu, littéralement venir brûler, veut dire brûler incandescence, incandescence de Dieu, comment cette voie égicaste, de manière générale, eh bien, alors voilà, c'est tout un un grand espace qui s'ouvre pour nous. C'est d'abord une voie qui nous guérit, dans une thérapeutique des passions de l'âme, dans une vision de tout ce qui nous défigure, de tout ce qui nous diabolise, de tout ce qui nous déchire à travers le combat spirituel, replacé sous la miséricorde de Dieu, nous invitant à travers un exercice à cette sobriété, cette vigilance, nous invitant aussi du coup à, eh bien, à entrer dans une, voilà, à travers la contemplation, la prière du cœur, la garde du cœur. Vous sentez que le cœur est quand même très au centre de cette voie, ce cœur à la fois organe, mais aussi ce cœur comme centre de l'homme. Comment cette voie hésychaste va progressivement nous inviter à clarifier, je dirais, ces voiles, à nous dénuder de tous ces voiles de mémoire qui continuent à cataracter notre vision, qui fait qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas le monde, on ne voit pas le frère ou la sœur, et on ne se voit pas soi-même tel que nous sommes, mais tel que nos corps de mémoire continuent à le projeter. On est tellement travaillé par nos blessures transgénérationnelles, et on voit le monde, on voit l'autre, le frère et la sœur, à travers cette cataracte des mémoires. Notre cœur est voilé. Tout le sens du chemin, c'est de purifier le cœur. Nettoyer le cœur, la coupe du cœur. Pour que ce ne soit plus mes yeux purement psychiques qui voient, mais que en moi, ce soit Dieu lui-même qui regarde. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. Mon cœur est libéré de ce moi égo, de ces passions de l'âme, et du coup, ce n'est plus moi qui porte une vision, c'est plus du moi égo comme centre de gravité qui regarde le monde. Mais c'est en moi ce qui est plus grand que moi, qui peut affleurer et qui peut ainsi regarder le monde, l'autre et soi-même dans une vision nouvelle, illuminée. Et on voit l'autre tel qu'il est, dans une lucidité, dans sa misère, mais en même temps dans sa beauté. Dans sa beauté. On ne l'enferme plus uniquement dans ce paquet de mémoire qu'il est, mais on est capable de le voir dans cet avenir qu'il est. Non, on ne dévisage plus quelqu'un, on l'envisage. On lui met un visage, on lui donne un visage. C'est toute la... Voilà, c'est toute la... Et du coup, ce n'est pas non plus sans conséquence pour la perspective aussi, on le verra, je dirais, d'un point de vue aujourd'hui écologique. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a... Qu'est-ce qui fait qu'on maltraite la création? On a oublié la vision énergétique de la nature et de la création. Et qu'aujourd'hui, notre grande responsabilité est de retrouver cette vision philokalique libérée des voiles pour découvrir que dans la pierre, dans le végétal, dans l'animal, ce sont des énergies incréées qui sont là. Et on ne peut pas les maltraiter, c'est plus possible. Il y a un lieu, du coup, d'un respect, d'une... où la création se découvre comme un tabernacle d'une présence, et plus comme un dépotoir dans lequel on va piétiner. C'est un regard radicalement nouveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'une des grandes réponses à la crise écologique. À côté des choses très concrètes, à l'extérieur, bien sûr. Mais c'est un changement radical de regard, dans une ouverture du cœur. Cette vision par le cœur. On ne voit bien que par le cœur, ce cœur purifié, ce cœur nettoyé de toutes ces passions, de toutes ces voracités, de tous ces lieux, voilà, de saisie. Donc c'est ce que permet vraiment à terme aussi comme conséquence. Voilà, bon, il y aurait des thèmes à approfondir, mais je pense qu'on va... Voilà, on va... Je crois que c'est la fin, parce qu'il y a l'oiseau qui apparaît. Voilà. Voilà, mes amis, simplement... Peut-être quelques minutes pour... ça fait peut-être beaucoup d'informations pour certains, mais qu'on puisse simplement retrouver donc cette posture intérieure. Tout commence chez soi, tout commence là, dans ce bout d'univers qui nous a été confié. C'est le seul espace où nous pouvons sans doute faire quelque chose, ou en tout cas laisser faire quelque chose. C'est ce lieu qui m'a été confié. remplie d'énergie, animale, de vitalité, de mémoire, de misère et de lumière, devenir des faiseurs de paix. En marche, les faiseurs de paix, les artisans de paix. Des hommes, des femmes se sont levés, siècle après siècle, portés par cette espérance folle d'une vie qui a vaincu la mort. L'amour est fort comme la mort, conclut le cantique des cantiques. Et à la mesure où chacun d'entre nous, nous allons nous positionner en continuant à nourrir la mort, le désespoir, la tristesse, nous allons rendre la mort plus forte que l'amour. Mais à la mesure où nous décidons, comme ces êtres qui nous ont précédés, de tourner le regard vers cette lumière en devenir, vers cette paix et cette joie que nous portons, que rien ne pourra atteindre, si au cœur de nos vies existentielles, nous continuons à privilégier le regard sur la beauté, sur la lumière en devenir. Alors nous rendons l'amour plus fort que la mort. Nous avons le pouvoir d'enténébrer ou d'illuminer le monde, heure après heure. Seigneur, porté par la grâce, par la prière de tous les anciens, qui se sont engagés, qui ont fait un choix clair, qui ont opté délibérément pour cet amour vainqueur de la mort. Donne-nous la force, la grâce de ce choix, heure après heure, minute après minute. Rends-nous la grâce d'honorer cet état monacal, cette dimension monacale de notre être, au sommet de la montagne, dans les profondeurs du cœur. Donne-nous la grâce de nous ouvrir à ce long travail de l'esprit, dans nos matières dures, durcies par la peur, l'indifférence, la rébellion. Des pères, des mères nous précèdent sur le chemin. Que nous puissions recevoir d'eux, non pas d'honorer leurs cendres, mais de recevoir leur flamme pour qu'aujourd'hui, dans nos paroisses, dans nos vies quotidiennes, nous puissions signifier cette flamme, non seulement pour notre bien-être, mais pour le bien-être de tous et de tout. Quelques instants à dédicacer pour ce lieu qui nous accueille, pour nos familles, dans le corps que nous sommes, présent au souffle qui nous respire. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Quos prodipom eloi. Seigneur, matrifie-nous, enfante-nous à une vie nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu, matrifie-nous, prends pitié de nous.
Fin de la deuxième partie.